Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode exceptionnel de 48, car cette fois nous sommes allés à la rencontre de Georges Eddy et comme nous avions énormément de questions à lui poser, nous avons décidé de séparer cet épisode en deux parties. La première, c'est maintenant et Georges Eddy va nous parler de son enfance aux États-Unis ainsi que de sa carrière de joueur professionnel. Georges Eddy, bonjour.
Bonjour Alain Maté.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de 48. Georges Eddy, vous êtes actuellement journaliste sur Canal+, depuis 32 ans, je ne dis pas de bêtises sur le timing.
Exactement.
32, bon, c'est ma référence, c'est que vous avez commencé juste une année avant ma naissance. Voilà,
ça... Ah d'accord, oui, oui, bah, ça situe
84,
notre
hein, c'est ça
generation gap.
Ouais. 84, c'est ça.
J'ai, en fait, oui, j'étais en contact en fin 84 et j'ai commenté fin janvier 85 le premier match.
Alors, vous avez longtemps été la voix du basket français de la NBA, en tout cas. Vous commentez actuellement la Basketball Champions League, mais aussi la NBA sur Canal+ Afrique, qui a toujours l'émission Canal NBA aussi, pour ceux qui aimaient cette émission. Quand je vous les ai lancé cette invitation, vous m'avez dit très justement, il faudra qu'on parle de choses dont je ne parle pas souvent. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose que les gens ignorent encore sur Georges Eddy ?
La jeune génération connaît sans doute un peu moins ma vie avant d'être en France et avant d'être basketteur professionnel. Déjà, ma carrière de basketteur professionnel, c'est sans doute inexistant pour la jeune génération. Et encore moins, ils doivent connaître... l'histoire de mes parents et ma passion pour le basket depuis un très jeune âge.
Et bien justement, c'était par ça que je voulais commencer, Georges. On va commencer plus tôt qu'on le fait habituellement avec nos autres invités, mais votre histoire, elle est incroyable. Dès le début, tout le monde le voit, tout le monde l'entend, Georges, vous avez une joie de vivre qui est permanente. Là, dès le bonjour, on sent votre sourire. Et ça vous vient notamment de vos parents.
Oui, surtout de ma mère qui était française et qui avait la joie de vivre en elle, très communicative, ce qui est étonnant dans le sens qu'elle était aveugle, donc non-voyante depuis l'âge de 18-19 ans. Et elle s'est mariée avec un monsieur qui avait un handicap, une sorte de paralysie partielle du haut du corps qui faisait qu'il avait du mal à avaler ses repas. Et donc, mon père est décédé à 60 ans et les médecins ont dit qu'il a vécu 20 ans de plus grâce à la cuisine française de ma mère parce qu'en fait, il mettait 3 heures pour manger son repas parce qu'il ne pouvait pas avaler. Et donc, il faisait 1m85, mais il pesait 55 kilos. Mais bon, il vivait normalement en dehors de ce problème-là. Il avait un problème aussi pour parler. Et il était prof de littérature anglaise, donc imagine le galère. Il a dû prendre sa retraite à 39 ans et vivre de ses investissements financiers. Donc c'était une enfance très inédite. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, j'étais un peu gêné par le fait que mes parents étaient très différents et marginaux et j'étais un peu complexé. Mais après, j'ai compris qu'en fait, j'avais des parents absolument exceptionnels qui étaient courageux et exemplaires à tous les niveaux. Donc, on revient sur la communication de ma mère. C'est vraiment grâce à elle que j'ai ce côté bavard et enthousiaste. Et surtout, comme moi et mon frère, nous avons une très bonne santé, on touche du bois. Nous n'avons pas du tout connu les problèmes de mes parents. Les médecins disaient à mes parents de ne pas avoir d'enfants parce que vous risquez de transmettre vos problèmes à vos enfants qui vont être peut-être paralysés ou malade et tout ça. Mais mes parents ont quand même eu deux enfants et nous sommes en bonne santé. Et donc, j'ai toujours senti que je n'avais pas le droit de me plaindre des négatifs vu que mes parents, eux, ils sont toujours restés positifs avec moi et avec leur entourage. Et ils ont fait plein de choses dans leur vie malgré ces handicaps. Tu vois, donc c'est vraiment le message essentiel de la carrière de Georges Eddy, la personnalité de Georges Eddy, ça vient de là.
Vous êtes né en 56 aux États-Unis. Au final, si tout le monde, donc on l'a dit, connaît votre carrière en France, on parle peu de votre vie américaine. Et à l'époque, notamment dans le Sud, où vous êtes né, Martin Luther King se bat pour les droits civiques des Afro-Américains. Votre père est blanc. Il le soutient. Vous avez des souvenirs de ça?
Oui, oui. Bah, toute mon enfance a été marquée par cette lutte pour les droits civiques des Noirs. Donc, mon père était membre à vie du NAACP, l'association de Martin Luther King. Et moi aussi, membre à vie, ma mère aussi. Ma mère était totalement impliquée là-dedans. Sur le plan local, mes parents ont poussé la ville de Winter Park, où j'ai grandi à côté d'Orlando, à faire construire un grand complexe sportif dans le quartier défavorisé, le quartier noir, qui était, quand j'étais jeune, très pauvre. Et c'était carrément des petits taudis, quoi. Et ils ont construit ce complexe avec piscine et salle de basket. Mon père en était très fier d'avoir convaincu les décideurs locaux. Et moi, j'ai joué beaucoup au basket avec les Noirs pendant mon adolescence parce que c'est là où se trouvaient les meilleurs joueurs. Il y avait moi et mon meilleur copain qui était le deuxième meilleur joueur de l'État de Floride au lycée. Et on était acceptés dans cette salle noire, un peu comme des égaux. Bon, surtout mon pote qui était plus fort que moi. Mais bon, le fait qu'on n'avait pas peur d'y aller, le fait qu'on aimait le basket comme eux et qu'on n'avait pas peur d'eux, on était hyper bien acceptés. Et bon, en plus, ils connaissaient un peu l'histoire de mes parents. Donc, peut-être ça a aidé aussi à m'introduire dans ce milieu. Bon, on jouait dans tous les terrains autour aussi, que ça soit avec des blancs, des noirs ou des mexicains ou peu importe. S'il y avait des bons basketteurs, on y allait et on passait 6 à 8 heures par jour à faire notre passion.
Ça commence à quel âge pour vous le basket, les premiers souvenirs?
Alors, premier souvenir, c'est des voisins qui m'invitent pour regarder un match des Globetrotters à la télé en noir et blanc. J'avais 6 ans. Donc, je vois les Globetrotters et tout ça. Je suis ébloui par tous les gestes. Donc, là c'est le premier contact. Après, très vite, ces mêmes voisins m'invite pour voir les matchs NBA. C'est l'époque Chamberlain face à Russell. Donc Chamberlain qui tient le ballon dans une main comme une pamplemousse, je comprends pas, c'est pas possible. Je vois le ballon, c'est deux fois plus gros que ma tête. Et lui, il arrive à tenir ça dans une main. Mais c'est quoi cet extraterrestre? En plus, il fait des dunks, il met 100 points dans un match. Donc tout ça, je rentre complètement dans le folklore et je deviens passionné très jeune. Et c'est avec toujours le père de mes copains voisins qui était entraîneur d'une petite équipe municipale. Et j'ai commencé à jouer donc à l'âge de 10 ans dans cette équipe en étant nul, mais je sais pas, j'ai compris assez rapidement que j'avais un tout petit peu d'adresse naturelle et donc j'ai vraiment forcé là-dessus pour devenir plus fort.
Avant de continuer sur votre parcours basket, juste encore un petit mot sur votre père et Martin Luther King. Vous avez rencontré Martin Luther King?
Alors, oui,
vous
avez... à l'âge de 3 ans, voilà. C'est dans la famille qu'on me raconte ça. J'ai des très vagues souvenirs, mais je me souviens très bien des meetings parce que mes parents étaient dans plein de meetings NAACP avec d'autres figures de proue de cette association qui a fait énormément pour avancer notamment le droit de vote, l'intégration et la lutte contre la ségrégation qui était très présent en Floride où j'habitais. Donc mon père était très courageux de participer à cette lutte et moi j'ai reçu parfois des piques et des critiques de mes copains qui disaient que t'es un nigger lover, tu vois. Eux, ils étaient pleins dans le racisme et la ségrégation du Sud. Et donc, moi, je faisais un peu marginal. Mes parents défendent le droit des Noirs, mais c'est quoi ce mec? tu vois. Mais bon, j'ai fait le tri rapidement et grâce à l'éducation et les valeurs de mes parents, j'ai compris que ces gens-là, ils étaient plutôt ignorants et souvent, ce n'était même pas leur faute, c'était un peu leurs parents qui ont transmis ces mauvaises idées. Et ça, c'est aussi, disons qu'à partir de l'âge de 10 ans, j'ai bien compris le courage qu'il fallait à mes parents, qui étaient dans des associations où il y avait, par exemple, 10% de blancs avec 90% de noirs, d'autres associations, sur le plan local. Et on avait tout le temps des dîners à la maison où il peut y avoir autant de noirs que de blancs, mais toujours des gens qui avaient un peu les mêmes valeurs. Et tout ça, pour moi, était normal. Mais parfois, mes copains trouvé ça très bizarre et tant pis pour eux.
Il y avait des risques à l'époque de représailles.
On n'a jamais eu de quoi brûler sur notre jardin par le Ku Klux Klan. Alors je crois qu'à Orlando, le Ku Klux Klan existait, mais n'était pas très, très ouvert. Je suis né dans l'Alabama jusqu'à l'âge de 3 ans où mon père travaillait dans une université comme trésorier. Alors là, ça aurait pu arriver. Ce n'est pas arrivé, mais ça aurait pu. Et en Floride, donc c'était plutôt des gens qui te regardent de travers, qui te mésestiment, tu vois, ou c'est le mépris, carrément. Mais bon, j'ai eu le même sentiment par rapport aux handicaps de mes parents. Il y avait les enfants, bon, ils sont naïfs. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il a, le monsieur? Pourquoi il a un œil de travers? Pourquoi il n'arrive pas à parler? Et pourquoi cette dame, pourquoi elle ne voit pas? Tu vois, donc, bon, quand c'est leurs parents qui te regardent de travers, je trouve ça plus grave parce qu'ils devraient être un peu moins bêtes, hein. Et donc, tu vois, ça, à la limite, c'est un peu le même truc que les Noirs. En fait, on était marginalisés par les handicaps de mes parents. Eux, ils étaient sensibilisés par la marginalisation, par le racisme de toute une partie de la population. Donc, à la limite, on luttait pour les mêmes valeurs et contre les mêmes ignorances.
Alors, avec ces valeurs, on l'a dit, vous commencez le basket, vous jouez au lycée de Winter Park, notamment avec Stan
Pitkavich.
Pitkavich, merci. Qui va ensuite à NBA. Vous, est-ce que vous en avez rêvé à un moment de la NBA ou pas?
Je savais que je n'avais pas le niveau. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, donc, j'étais toujours le meilleur copain de ce mec qui était la star de tout l'État. En fait, il y avait un joueur plus fort que lui, c'était Otis Birdsong, qui a fait une grande carrière NBA, notamment au Nets de New Jersey. Et on jouait contre lui. Et on jouait contre aussi Eddie Johnson et Franklin Johnson. Franklin et Eddie ont joué en NBA. Eddie tournait à 20 points avec Atlanta. Franklin a joué à Phoenix et il a joué aussi à Antibes. Il est devenu coach après. Alors, donc, grâce à mon pote Stan, j'ai eu la possibilité de rencontrer tous les meilleurs joueurs de l'État, que ce soit sur les playgrounds ou dans des petits tournois, des trucs comme ça. Mais par contre, alors, mon lycée, Winter Park High School, où Austin Rivers a été champion de l'État plus tard, avec le fils de mon pote Stan.
D'accord.
OK. Donc, alors là, par contre, j'étais toujours le dernier joueur coupé. Il y avait 15 places dans l'équipe à l'époque et j'étais toujours le 16e meilleur joueur.
D'accord.
Bon, la dernière année, c'était pire que tout parce que là, à force de jouer 10 heures par jour avec mes potes là, qui jouaient dans l'équipe du lycée, qui était le deuxième de l'État, ils ont fait le final de la catégorie supérieure de l'État de Floride. Et on perd contre des joueurs très connus, notamment Michael Thompson. Une équipe de Miami-Dade qui avait fait venir 4 Bahamiens qui, en fait, avaient 20 ans. Et ils faisaient une année supplémentaire de lycée. Et je me demande s'ils n'ont pas retiré, d'ailleurs, leur titre plus tard. Peu importe. Mais tout ça pour dire que moi, en fait, la dernière année, j'allais normalement faire partie de l'équipe et j'ai une pneumonie après 2 mois d'entraînement. Donc, au lit pendant 3 semaines. Donc, après, je ne peux pas revenir à un niveau correct. Donc, le coach me dit, bon, on ne peut pas te garder. Est-ce que tu veux devenir l'animateur des matchs, speaker au match? Et je l'ai fait pendant la dernière saison. Et en plus, l'équipe donc, va en finale de l'État. On domine notre région et tout. Et moi, je suis le speaker pour les matchs où, par exemple, mon pote Stan joue contre Daryl Dawkins, qui est la star d'une autre école à lycée à Orlando. Et donc, je suis speaker pour un match où il y a 4000 spectateurs pour un match de lycée. Et en plus, il y a une bagarre générale avant le match. avant le match entre Dawkins et Petkovic. Et je suis là sur le terrain à dire restez dans les gradins, ne vous bagarrez pas. Non, mais attends, les gens vont croire que j'invente tout ça, mais c'est la stricte vérité. Donc il faut dire que j'ai eu de la chance dans ma vie de rencontrer les bonnes personnes et d'être un peu au bon endroit au bon moment. Et ça a commencé avec cette équipe de Winter Park, finaliste de l'État. Et moi j'étais le speaker et je ne savais pas, mais en fait c'était un peu le début de ma carrière de journaliste.
C'est ce que j'allais vous demander, est-ce que ça vous y donne goût? Est-ce que vous vous dites, tiens, je referais bien ça plus tard?
Oui, sans doute, parce qu'en fait, après, à l'Université de Floride, c'est la même histoire. L'école fait partie peut-être des 40 meilleures universités du pays. Et tous les ans, je suis évincé, le dernier joueur évincé des walk-ons qui essaient de faire partie de l'équipe. Les autres joueurs avaient une bourse, donc il aurait fallu être deux fois plus fort qu'un joueur qui a déjà une bourse, sinon ils vont pas te prendre. Donc c'était pas mon cas. Ils m'ont proposé de trouver une bourse dans une petite université ailleurs, c'était gentil de leur part. Mais moi j'étais très bien à l'Université de Floride, là où allait aussi Noah,
oui,
beaucoup
Noah,
plus tard.
Ouais.
Et là, en fait, j'ai continué à jouer beaucoup, mais je ne faisais encore pas partie de... En fait, je visais toujours trop haut. Et donc, je n'ai pas fait partie de l'équipe de l'université, mais j'ai passé tout mon temps à jouer contre ces joueurs dans le gymnase à Gainesville. Et ça m'a toujours fait progresser. Donc, et j'ai quand même fini par être le champion du tournoi de 1 contre 1 à la mi-temps d'un match où il y avait, je crois, 5 ou 6 000 spectateurs. Et je gagne le truc et là je me fais une petite réputation sur le campus, un peu comme c'est lui le meilleur joueur du campus qui fait pas partie de l'équipe de l'école, tu vois. Et disons que j'ai à la fin quand je finis à quoi à 20 ans, 21 ans, mon cursus. À force de jouer avec des super joueurs 4 heures par jour, je suis devenu franchement correct comme joueur, tu vois. Et j'aurais pu aller dans une petite université, mais j'avais pas envie de changer. C'était la fête tous les soirs, une liberté totale, des études sympas en criminologie, mais pas trop dures non plus. Donc c'était la vie rêvée. J'allais pas bouger.
Vous avez bien profité de vos 4 années à Florida alors.
En fait, j'ai fait 3 ans.
3.
J'ai fait un diplôme de 4 ans en 3 ans plus un trimestre.
D'accord.
Parce qu'en fait, au début, j'ai pris ça à la légère et je me suis planté. Ils allaient me virer. Et après, j'ai compris qu'il fallait vraiment faire ça sérieusement. Et après, j'avais des super notes sur les deux dernières années pour avoir le diplôme sans problème, quoi.
Vous restez très attaché à la fac. Je sais que c'est quelque chose de très américain de rester attaché.
Oui, et j'ai pas ce fibre-là. Non. J'ai des potes de l'époque qui le font. Mais comme je vis en France... Je suis un peu les résultats de l'Université de Floride. Quand ils ont été champions 2 fois avec Noah, là j'ai été beaucoup plus intéressé. Mais je ne suis pas ça passionnément. J'ai trop de choses à suivre par rapport à mon travail. Donc j'ai un peu lâché le basket universitaire ces dernières années, par exemple. Comme j'ai un peu lâché le foot américain parce que je ne le commande plus, pour me concentrer plus sur l'équipe de France, la NBA pour l'Afrique et la Champions League pour Canal France.
Bon, vous ne vous baladez pas tout le temps à la maison avec votre sweat Florida et votre
non, j'ai des trucs comme ça à la maison. Mais non, mais c'est drôle. Ce truc-là, c'est comme je n'ai pas de fibre nationaliste non plus. Mmh. Moi, je considère que tous les êtres humains sont égaux devant Dieu, même si je ne suis pas croyant. Le côté cocorico, ça va peut-être surprendre les gens parce que je suis derrière l'équipe de France dans les commentaires. Mais c'est vraiment pas par nationalisme, c'est parce que j'ai vu tous ces gamins grandir, tu vois, en regardant nos matchs. Et ils nous ont transmis beaucoup d'amitié, et moi je leur transmets beaucoup de respect et beaucoup d'amitié. Donc ma passion pour l'équipe de France, c'est plus basket, tu vois, c'est pas le pays. Mais bon, la France, j'adore, les États-Unis, j'adore, mais j'adore aussi les pays nordiques qui sont très en avance, je pense, sur nous, ou les pays latins comme l'Espagne et l'Italie pour leur côté méditerranéen, quoi, leur façon de vivre. Voilà. Donc, mais bon, Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à parler de ça.
Parce que je parlais de la légende de Florida.
Oui.
Ouais.
Donc, je n'ai pas ce côté, je ne sais pas, accro, ni à mon école, ni à un pays par rapport à un autre.
Et je parlais de votre tenue, d'ailleurs. Le t-shirt que vous portez aujourd'hui, c'est un hasard, hein, mais résume un peu l'état d'esprit dont on parlait tout à l'heure. Vous avez un t-shirt rouge sur lequel il est écrit « Live Simply ».
C'est
donc,
ça.
Vivez simplement.
C'est Patagonia qui avait lancé ça parce qu'eux, ils sont très éco-responsables. Ça raconte, je pense, ma vie. Très, très honnêtement, en deux mots. En fait, mon père, il avait une expression qui a toujours été mon expression préférée. C'est « live and let live »,« vivre et laisser vivre ». Et je pense que c'est la seule façon d'exister sur cette terre. Et « live simply », maintenant, avec les problèmes d'écologie, de pollution, on est en train de détruire la planète et tout ça. Là, j'ai fait mon « big synthé Lizarazu ». Je trouve qu'on a besoin d'apprendre à vivre plus simplement, mieux partager, côté éco-responsable, développement durable. Je ne suis pas un grand croyant dans la croissance non plus. Je pense qu'on peut vivre avec une croissance zéro en partageant mieux. Et la jeune génération le fait. Regarde, Uber, tous ces trucs-là, c'est quoi? C'est partager plutôt que de posséder. Et je pense que c'est l'avenir de la race humaine, si on veut bien comprendre.
Bon, après, Uber, c'est surtout le patron qui possède. C'est plus Airbnb et tout ça,
oui,
où on partage.
Non, c'est par rapport aux jeunes qui utilisent Airbnb, Uber. C'est-à-dire qu'un bien est à utiliser à plein temps et à partager, plutôt que de... Par exemple, les gens qui possèdent des résidences secondaires, ils vont une semaine par an. On ne va pas changer ça du jour au lendemain, mais je trouve ça du gâchis, quoi. Mais globalement, je pense que tous les biens que nous avons... On doit savoir les partager entre les plus favorisés et les moins favorisés, beaucoup mieux qu'on fait. Ça, c'est la base de tout. Et on peut, par exemple, l'agriculture industrielle, là, il faut passer sur une agriculture plus bio et plus locale. Bon, c'est des messages que beaucoup de gens portent, et je suis d'accord avec ces gens-là.
Alors, on parlait de décalage tout à l'heure. C'est un discours qui doit être quand même en décalage avec une partie de vos compatriotes américains, en l'occurrence.
Ah, totalement. Moi, je me sens beaucoup plus proche de la vie à la française, le système social français. C'est pour ça que j'ai choisi de vivre ici et je vais prendre ma retraite et vivre ici ou en Europe ma retraite. Hein. Je ne vais pas retourner aux États-Unis. Je n'ai pas ce côté les États-Unis, c'est mieux que tout. Autant plus avec les problèmes avec Trump, les problèmes des armes, tous les... Ces problèmes-là existent depuis longtemps, hein. C'est pas que depuis aujourd'hui. La violence, tout le monde possède des armes en Floride, j'ai vu ça quand j'ai grandi. Tout le monde avait son shotgun dans sa camionnette. Et d'ailleurs, j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais tiré une balle, une D'accord. vraie balle de revolver. Par contre, je suis très adroit dans les tirs de...
À la fête foraine, c'est votre
voilà,
truc.
Voilà, c'est ça. Mais par contre, tout ça, ça m'horripie. Et j'adore le mouvement des jeunes américains contre les armes en ce moment. Je pense que ça représente toute la force et la puissance de la génération Z ou peu importe, génération X, Z, Y, comme vous voulez. Mais il y a des choses positives chez ces jeunes-là qui ont compris les erreurs de leurs aînés, en fait.
Il faut espérer en effet que ça change. Au niveau des armes, je crois que la statistique, c'était il n'y a pas longtemps, il y a maintenant plus d'armes aux États-Unis que d'Américains.
Non, mais c'est... Mais le plus drôle, ou c'est pas drôle du tout, le plus curieux, c'est que les Canadiens, ils ont autant d'armes, mais il n'y a jamais un mort violent dans leur pays, ou très très peu. Un peu plus qu'en Angleterre, mais presque pareil. Et donc, c'est un problème culturel, c'est un problème surtout économique, parce que forcément, c'est dans la plus grande pauvreté qui va naître la plus grande violence, c'est évident.
On va revenir un petit peu au basket, Georges. On va marquer un petit break et on va mettre la musique du 5 majeur parce que c'est l'heure de parler un petit peu quand même de tout ce que vous avez vu. Vous êtes quand même l'invité le mieux placé que j'ai eu avec le plus de recul pour l'instant pour me donner un 5 majeur all-time. Vous me disiez tout à l'heure que vous avez vu jouer Wilt Chamberlain, vous avez vu jouer quasiment tout le monde.
Tout à fait.
Toutes les références qu'on a aujourd'hui, si vous devez me donner un 5 majeur de tous les temps.
On me demande souvent ça. Donc, en fait, je mettrais Bill Russell parce qu'il a gagné 11 titres en 13 saisons. Jordan, 6 titres en 6 finales, 6 fois MVP. Manner Magic Johnson. Bon, je parle toujours des titres, mais je pense que c'est quand même le plus important. Je crois qu'il fait 5 titres en 9 finales à peu près. Bon, après, donc Jordan, Magic, Bill Russell. Je suis quand même tenté de mettre LeBron parce que ce qu'il fait actuellement est vraiment irréel. Cette finale de suite. Bon, il lui manque un peu de titres par rapport à des mecs comme Kobe et les autres là. Mais j'essaie de faire un 5 aussi qui peut jouer ensemble.
Oui, c'est complémentaire là pour
voilà.
L'instant.
Et après, en fait, je serais un peu partagé. Ben là, je mettrais quand même deux pivots. Je serais partagé entre Chamberlain et Jabbar. Chamberlain, c'était le meilleur individualité de tous les temps, même devant Jordan et tous les autres. Mais il n'a gagné que deux titres. Et il semblait un peu trop concerné par ses stats et pas assez concerné par ses coéquipiers. Donc, je mettrais Jabbar. Jabbar est le meilleur marqueur de tous les temps. Il a gagné 6 titres. Il a gagné des titres avec 2 équipes différentes. Et il avait l'arme absolue en attaque avec le Skyhook. Donc, ça me fait quoi? Russell, Jabbar, Jordan, Magic
et LeBron.
Il y a quelques années, j'aurais peut-être mis Bird pour LeBron parce que j'ai adoré Larry Bird qui a tiré le maximum de ses qualités athlétiques lamentables. Donc ça, je peux m'identifier avec ça à fond. Peut-être j'aurais mis Kobe, je ne sais pas. Mais Kobe m'a déçu entre l'époque Shaq et l'époque Pau Gasol à faire l'individualiste forcené. Il m'a un peu déçu à cette époque-là.
Il y a eu des hauts et des bas. Je vais vous demander un autre petit top 3 cette fois. Là, c'est plus personnel. Vous avez interviewé quasiment tout le monde et vous avez rencontré en tout cas énormément de joueurs. J'aimerais bien savoir quelles sont les 3 rencontres qui vous ont le plus marqué humainement.
Par rapport aux grands joueurs de la NBA.
Oui, grands joueurs ou personnalités en tout cas dans le basket que vous avez rencontrés qui vous laissent un souvenir comme ça, alors pas forcément de jeu ou de voilà, mais qui vous ont fait une forte impression ou qui vous ont appris quelque chose ou que vous avez trouvé vraiment intéressant.
Bon, alors forcément Jordan parce que il avait une sorte de aura presque animal, beau, élégant. Sur et en dehors le terrain, le winner absolu, et finalement un coéquipier extraordinaire, même s'il a poussé tout le monde très très durement, il a rendu tout le monde meilleur, il a permis à tout ce bon monde, y compris Steve Kerr, de gagner des titres et tout ça. Bon, Jordan aussi, parce que ça correspondait à presque toute ma carrière à Canal, quand on avait fait nulle part ailleurs, meilleure audience de l'année en 97, quand il est venu pour le tournoi McDo, il avait été génial. Il m'a toujours traité avec respect, et il me voyait arriver, il savait qui j'étais. Il me faisait pas particulièrement de cadeaux par rapport aux autres journalistes, mais globalement, j'ai eu une vraie relation avec lui. Une fois, il m'avait dit que c'est grâce à moi que la NBA est populaire en France. Quand il est venu à Coubertin la dernière fois là pour le truc avec les jeunes là.
C'était il y a 2 ans, peut-être quelque chose comme
ça. Non, ça remonte à 6 ou 7 ans.
Ah, d'accord.
Il était là pour voir les jeunes qui allaient faire son match à New York. Là.
Ah oui, le Jordan
Classic.
Oui.
Non, c'était pas ça.
C'est possible, oui.
Bon, et on l'a interviewé longuement dans le sous-sol de Coubertin. Il m'a dit ça, c'est le plus beau compliment qu'on m'a fait par rapport à ma carrière. Alors, par contre, ce type Stan Petkovic, qui a joué en NBA et qui était une star en Italie aussi, à Pesaro et à, je me souviens plus, à Brescia. Lui, il a forcément, c'est celui qui a marqué ma vie le plus en tant que passionné de basket. Parce que il travaillait, c'était comme Jordan, quoi. Il était prêt à travailler ses fondamentaux toute la journée, dans la pluie, dans la neige. Il n'y a pas beaucoup de neige en Floride, mais bon. Donc, c'était un modèle de Stakhanovic de travail, de passionné de basket. Après, en plus, c'était une encyclopédie de tout ce qui se passait dans le basket universitaire NBA. Donc tout ça, j'ai vraiment copié. C'était mon modèle, tu vois. En plus, c'était franchement, il n'avait pas la grosse tête. Donc là aussi, c'était un modèle. Tout en étant la deuxième plus grande star du basket du lycée, je peux dire, devant 3000 personnes à chaque match, ça, on parle de lycée, là.
Ouais.
Après, il était star à Auburn, grande université dans l'Alabama. Il tournait à 20 points par match. Drafté par la NBA, il a joué un peu avec Dallas et les Clippers de Los Angeles, mais il manquait des qualités athlétiques, comme Bird, comme moi. Et ça aussi, je m'identifie. Et après, il a joué en Italie. Moi, j'ai joué en France. On s'est croisés en même temps. Donc, c'est vraiment le type qui m'a le plus influencé sur le plan basket. Alors, après, je vais dire mon père, évidemment, ou mes parents, pour tout ce qui est valeur humaine, éducation de vie, etc. Mais bon, dans le basket en France, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a marqué beaucoup, c'est Jean Gall. Parce que j'ai été un des meilleurs marqueurs en troisième division et il m'a donné ma chance à Caen en première division. Et en plus, j'ai fait deux super saisons. J'étais un peu le chouchou du public. Sixième homme, j'arrive, boum, j'ai mis les paniers. Parfois, ça nous fait gagner. Et j'étais tout le temps dans les journaux parce que je suis communicatif et les journalistes avaient un bon client en face. Donc là aussi, ça m'a préparé pour Canal Plus et la carrière de journaliste. Mais Gal était vraiment celui qui a cru en moi, malgré le fait que je ne dunkais pas et je n'aurais jamais gagné un sprint contre les autres de ma vie, tu vois. Mais il a vu que mentalement, j'étais assez costaud et que j'avais de l'adresse. Il n'y avait pas de panier à 3 points.
Hein. Oui, c'est vrai.
Mais je tournais à 14 points par match la première saison et 13 la deuxième, tout en étant sixième homme, avec un fort pourcentage de réussite. Et c'était vraiment le sommet de ma petite carrière de joueur en première division. On a joué en Coupe d'Europe. J'ai joué Kikanovic, le joueur et Obradovic, à Partizan Belgrade. Et mon grand souvenir, j'ai mis 16 points à Caen contre le Partizan Belgrade, une des meilleures équipes européennes. Donc ça, c'est des petits trucs personnels. Bon, après, pour le journalisme, c'est Charles Bietri. Donc là, il n'y a pas de... Lui, il a cru en moi comme consultant. Il m'a tout appris. Et il m'a présenté à Michel Denisot, Pierre Lescure, André Rousselet et Philippe Gildas. Donc là, j'ai été quand même à bonne école sur le plan télé, journalistique, etc., etc. Donc ça c'est des gens qui m'ont profondément permis de progresser dans la vie.
On va revenir à votre parcours. Vous avez évoqué Caen. Vous sortez donc de la fac de Florida. Vous avez un diplôme en criminologie. Comment vous vous retrouvez à jouer au basket en France professionnellement?
Oui. Alors, comme je ne faisais pas partie de l'université de Floride, de l'effectif, j'avais compris que bon, le basket, ce n'est pas comme ça que j'allais gagner ma vie. C'est ce que je croyais. Et donc, je continue à jouer par passion parce qu'il n'y avait que ça. Qui me plaisait vraiment. C'était mon kiff absolu de jouer contre des bons joueurs, de les battre, de montrer que j'avais quand même un certain niveau et tout ça. J'ai fait de la criminologie pour devenir avocat. Donc, tous mes copains, c'était des futurs avocats. Et certains sont devenus des attends, j'ai un copain, il va se présenter pour être gouverneur de Floride. Probablement. Et il a gagné la lutte pour la légalisation du cannabis en Floride pour des raisons médicales. Il s'appelle John Morgan. On le voit sur... Il est presque milliardaire grâce à son cabinet d'avocat. Et c'est un type avec qui j'ai joué au basket à l'Université de Floride dans les pick-up games, tu vois. Et on jouait aussi avec Andy Garcia. L'acteur.
D'accord, oui, l'acteur. Ouais.
Je fais beaucoup de name-dropping, mais c'est des trucs incroyables. Jean-Andy Garcia, il jouait au pick-up games tous les après-midi avec nous. Bon, après, il est devenu une vedette de cinéma. Mais bon, donc j'ai été entouré de des gens qui voulaient devenir avocat. Donc, c'était sympa parce qu'il y avait du bon vocabulaire. Ça m'a préparé aussi pour le journalisme. On avait l'amour du bon mot, du jeu de mots, de faire rire à travers le vocabulaire. Donc, ça, c'était un peu mon environnement et mon entourage à l'université. Et puis, je deviens basketteur professionnel. Vraiment par chance, je vais venir avec ma mère en France l'été 77. Et donc un ami de la famille appelle les différents clubs pour voir s'il y a un endroit où je pourrais juste jouer au basket dans une salle, quoi. Donc il appelle Bagnolet qui joue en première division. Et le dirigeant de Bagnolet dit « Oui, mais si sa grand-mère est française, peut-être il peut compter comme joueur français dans notre effectif. Donc, si c'est un joueur américain correct, ça nous intéresse en tant que joueur professionnel ou semi-professionnel à l'époque. Alors, évidemment, quand on entend ça, putain, je traverse le plafond, je suis prêt à aller à la nage pour cet essai, parce qu'en fait, il me propose de venir faire un essai. Alors, ça, c'est le truc le plus cute. L'essai, c'est un 2 contre 2 dans la vieille salle de Bagnolet, et un des 4 joueurs, c'est Hervé Dubisson.
Ah
tout
oui.
Jeune. Il était meilleur copain avec Franck Casalan, qui était joueur de Bagnolet. Ils étaient ensemble dans les équipes de France de jeunes. Et un autre joueur, Christian Ricard, qui était encore un autre jeune de Bagnolet. Des joueurs qui ont fait une bonne carrière, tous les trois. Bon, Duvisson, évidemment. Après, donc c'était un bon petit niveau, mais c'était du 2-2. Tu vois. Bon, moi, j'arrive, je vois la salle minable. Et donc, tout de suite, j'ai dit, oh là là, ça doit être nul comme niveau. Je vais tout éclater, tu vois. J'étais sûr que j'allais devenir le Wilt Chamberlain de la France, tu vois. Le mec naïf et tout. Parce que là, je joue encore en ancien dans la salle de Bagnolet. C'est un truc vétuste à souhait. Donc, on fait le 2-2 pendant une heure. Et j'avoue que comme je croyais que j'étais le meilleur joueur de France, j'ai bien joué. J'ai mis plein de chutes de loin et tout. En plus, j'étais en forme. J'avais été à l'université à jouer 4 heures par jour pendant 4 ans, 3 ans. Et donc, c'est un mort de rire. Bon, je fais vite parce que j'ai déjà raconté ça 1000 fois. Mais donc, le président dit « Ok, on te prend ». Après un essai ridicule de 2 contre 2 pendant une heure. « Combien tu veux ?» Je comprends. Pourquoi les joueurs sont payés? Je croyais que c'était comme le basket universitaire. Donc j'ai dit, ah, bah ça doit être comme le basket universitaire, il te donne ton logement. Donc j'ai dit, bon, un logement, ça doit valoir à peu près 800 francs. OK, je veux 800 francs par mois. Il dit, OK, tout de suite, on signe. Alors, je rentre à la maison et je discute avec un joueur américain de l'époque, Dave Bustion. Il dit, mais t'es fou, des joueurs franco-américains, il n'y en a pas. Ils te considèrent comme un joueur américain, tu aurais dû demander 5 fois plus. Et il te l'aurait donné parce que ça, pour eux, ça n'aurait pas fait énorme comme ça. J'ai dit, ah bon? Donc, avec ma grand-mère, on rappelle le président de Bagnolet et ma grand-mère lui dit, en fait, il n'a pas très bien compris, il croyait que vous parliez en dollars.
Pas bête, pas bête.
Voilà, en fait, il veut 800 dollars. Et le président dit, OK, d'accord, mais sans réfléchir, quoi. Donc, je signe, donc ça faisait à peu près 3500 francs que j'ai touché que pendant 3 mois, parce qu'après, je ne joue pas du tout, parce qu'il y avait Laurent Dorigo, la star locale, devant moi, donc j'étais bloqué. Et ils ont essayé de me renvoyer aux États-Unis. Ils disent, tiens, prends ton dernier chèque, et le billet d'avion, tu ne vas pas jouer, tu n'es pas assez fort, tu dégages. Je suis resté, j'ai accepté un salaire amoindri pendant quelques mois. Et il se trouve que Bustion est blessé. Un autre joueur américain démissionne parce qu'on perd trop. Et Dorigo tape sur un arbitre et il est suspendu. Et tout d'un coup, ils n'ont plus personne. Et je monte pratiquement dans le 5 majeur. Et pour les matchs retour, je tourne à 11 points par match. Et donc, je me fais connaître comme joueur correct. Et seulement le deuxième franco-américain en France, après Jean-Pierre Baldwin, l'ancien coach de Monaco qui est décédé. Donc, j'étais un peu un oiseau rare. Et j'ai quand même montré sur le terrain. J'ai mis 20 points dans plusieurs matchs. Des matchs à 16 points, tout ça, 18 points. Donc, je me suis fait connaître grâce à ça. Et donc, ma carrière était lancée. Mais quand tu vois le début très humble de cette carrière, c'est une histoire complètement incroyable. Quoi.
Et donc, derrière, vous jouez combien de temps?
Je fais 15 ans de pro. Donc, je joue 5 ans en première division. Surtout à Caen où j'ai brillé. Et mon niveau, c'était... National 2 Pro B de l'époque, où je suis souvent dans les meilleurs marqueurs français. J'arrive à aider une équipe à 3 à se maintenir et je fais genre 23 points par match dans les meilleurs marqueurs avec Jean-Aimé Toupin et Yaya Sissoko qui étaient des grands joueurs. Et donc c'est Buffier qui vient me chercher pour être son shooter dans une équipe de Paris Racing qui joue la montée avec Skeeter Jackson, Mathieu Fay, avec des gros joueurs. Et en fait, sur les matchs LA, je tourne à 30 points par match. Et c'est en 84, c'est la même année où je rentre à Canal. On est invaincu. c'est la première année de la ligne à 3 points. Donc, tous les shoots que je prenais avant, pour 2 points, ça valait 3 points. Les défenses ont eu du mal à s'adapter. Donc, ils m'ont laissé shooter. Je faisais genre 11 sur 13, 47 points, 46 points contre Saint-Brieuc. Alors, là je suis au summum. Donc, c'est vraiment dans le National 2 où j'avais les qualités pour briller le plus, en fait.
Alors, ce shoot, Georges, il est un peu culte hein, maintenant. Il y a beaucoup de vidéos où on vous voit shooter sur Internet, notamment le tir du milieu du terrain All-Star Game, tout ça, tout ça. Comment c'est venu ? À quel moment vous réalisez le shoot, c'est mon truc ? Ça vient
Très jeune. Parce que je vois que je cours pas vite et je saute pas. Bon, je pense que c'est génétique. Je ne devais pas avoir des grands athlètes dans ma famille. Quand j'étais jeune, je mangeais beaucoup de cuisine française de ma mère et j'étais un peu roly-poly, on disait, un peu gros, quoi. Donc, heureusement, le basket m'a permis de m'affiner, mais je n'ai jamais eu de vitesse et de détente. Comme malgré ça, j'aimais bien le jeu, j'ai quand même compris, même à 10, 11, 12 ans, que la seule manière que j'allais pouvoir être sur le terrain, c'est de mettre des shoots à mi-distance. Et comme j'avais une bonne main et tout ça, et surtout, après, avec mon pote Stan, lui, c'était un des meilleurs shooters du pays, quoi. C'était une machine. Son idole à lui, c'était Pete Maravich. Donc, bon, c'était un Pete Maravich en un peu moins fort, quoi. Donc, c'était, notre truc, c'était de faire des concours de shoot, les horses, toute la journée, quand il n'y avait pas d'autres joueurs pour jouer. Mais c'était le tir de loin, c'était notre truc, quoi.
Georges, comment vous vous décririez sur un terrain en tant que joueur ?
Spécialiste du shoot longue distance, piètre défenseur.
Alors, c'était plus une question sur l'attitude.
Ah oui, parfois j'ai mauvais caractère. Et ça, c'est surtout en vieillissant. Quand j'étais joueur pro, j'ai pas eu beaucoup de conflits ni avec mes coachs ni avec les arbitres parce que c'était professionnel et j'étais hyper sérieux. En plus, je me préparais beaucoup, je faisais beaucoup d'entraînements individuels à côté. Mais bon, après, ça a commencé quand je descends en 3e division avec le Vésiné. Avec Paris, tout ça, en plus, en tant que coach à 30 ans en première division à Paris, je ne prenais pas beaucoup de techniques. J'étais très sérieux. Mais bon, après, peut-être j'ai pris un peu la grosse tête entre Canal Plus. Aussi, tu descends en 3e division, tu es un ancien meilleur marqueur de 2e division, tu jouais 5 ans en première division, tu te dis, on devrait me respecter, etc. Parfois, j'ai eu des éclats de voix avec les arbitres ou avec le public. Adverse. Il n'y a jamais eu de bagarre physique ou de trucs excessifs, vraiment. Mais bon, j'avais une trop grande gueule et ça m'a donné un peu une réputation. Là, j'ai commencé à prendre pas mal de techniques. J'étais entraîneur-joueur en plus. Donc ça, c'est difficile à gérer. On a sauvé le Vésiné 2 fois en 3e division. Après, il est monté en 2e division. Donc, je ne faisais pas que du mal à cette équipe. Je tournais aussi à 35 points ou 30-35 ou 20-25 en N2 après, pour monter.
Mais même aujourd'hui, je dis ça, c'est pas innocent, parce qu'on a déjà joué de temps en temps ensemble.
Oui, je peux péter un câble parfois.
C'est vrai que ça tranche avec la personne que vous êtes. Alors je le dis parce qu'on a travaillé ensemble pendant un an, et moi, vous nous avez invités à jouer, je m'en rappelle, quand on a commencé le Hoopcast ensemble, il m'a fallu, je crois, 4-5 mois pour pouvoir venir, et c'est vrai que je suis venu la première fois et je me suis dit waouh, c'est pas la même personne que j'ai en plateau toutes les semaines.
Oui, je suis trop exigeant. En fait, ça c'est mon côté Jordanesque.
C'est ça.
Je me mets la pression pour être bon et je mets encore plus de pression sur les gens autour. Bon, en plus, quand on est. Moi j'ai grandi sur les playgrounds, hein, donc j'ai dit pour plaisanter que j'ai inventé le trash talking personnellement, tu vois. Maintenant, j'ai 61 ans, je fais plutôt partie des mecs les plus zen du groupe où on joue depuis 30 ans avec les journalistes. Je joue moins souvent parce que je joue encore en ancien, donc j'essaie de me réserver pour notre championnat avec le Vésiné. Les grands coups d'éclat de colère sont quand même beaucoup moins nombreux qu'à une époque. Il y a une époque où je m'engueulais avec Beatrice, avec Eric Bénard, avec David Cosette. Mais ce qui est bizarre, c'est que dès que c'est le boulot, je m'interdis ça. Je me suis pratiquement jamais énervé avec un collègue commentateur, avec un collègue technicien, même si je n'étais pas d'accord avec des choses, ou pendant le stress du direct, quand on commande des matchs d'une grande importance, avec parfois même des millions de personnes devant, ce stress-là, ça peut se traduire, et chez certains de mes confrères, c'est le cas, dans une sorte de comportement excessif et colérique. Et ça, ça n'a jamais été le piège pour moi, parce que je me suis dit, je suis payé pour être là, il faut que je sois exemplaire, tu vois. Mais par contre, sur un playground, je vois un mec qui est nul et qui se prend pour un Jordan, ça, ça me dégoûte et ça ne me dérange pas de lui dire.
Après.
Ou quelqu'un qui essaie de tricher au niveau de l'arbitrage, ou des joueurs qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Bon, c'est là, dans la situation vraiment playground, beaucoup moins en championnat, je prends plus de technique en championnat, tout ça. Mais là, il y a un côté primaire qui ressort de moi et je dis ce que je pense franco, quoi.
Mais dans un espace cadré, donc c'est aussi une sorte de défouloir.
Oui, en plus, franchement, j'ai jamais échangé des coups de poing avec qui que ce soit sur un terrain. Ça a toujours été verbal et parfois excessif et j'ai été sanctionné. D'ailleurs, par exemple, ma toute dernière année professionnelle, j'ai empêché l'équipe de Chartres de monter entre Régional et la National 3 à l'époque. En plus, on avait le matos pour le faire. Parce que, en plus, je ne connaissais pas le règlement. En régional, quand on cumule les fautes techniques, après, on est suspendu. Et on prend encore une technique et on est suspendu plusieurs matchs. Mmh. Et j'ai débordé et j'ai été suspendu et ça a empêché l'équipe de monter. Donc, je m'en suis vraiment voulu pour ça, même si c'est un tout petit anecdote. Hein. Et très souvent, quand je suis allé beaucoup trop loin dans l'engueulade avec quelqu'un, tout de suite après, je m'en suis voulu. Ou ça, parfois, ça ne m'a même pas empêché de dormir. Mmh. Et je crois que ça vient de ma mère. Elle était... Elle pouvait, comment dire, elle est soupe au lait, là. Elle pouvait monter vite en colère. Et après, retomber très vite et redevenir gentil. Mais il y a un moment où... Il ne faut pas la chercher, quoi. Et moi, c'est pareil. Si on déborde à un certain niveau, parfois, ça peut aller loin. Verbalement, hein, pas physiquement.
Oui, non, il n'y a pas de
débordement. Quand je dis ça, il y a peut-être des mecs qui auraient bien aimé me mettre un coup de poing dans la gueule. Ça, c'est sûr. Mais disons que ce n'est jamais arrivé jusque-là. Même en ancien, où je pouvais dire, c'est très, très chaud. Hein, et je joue en ancien depuis 25 ans. 25 ans de suite de licence en ancien... région Île-de-France.
Ah mais je peux en témoigner, Georges, que vous jouez encore, que ça rentre encore de très loin au niveau
ça
des tirs.
Ça dépend des jours.
Ouais, il y a des jours où c'est frustrant de défendre sur vous en sortie d'écran quand même. Hein.
Ah bah tant mieux.
On a beau lever la main, il y a des fois...
Cette année, bon, je joue en 3e division ancien, donc c'est le plus bas. On ne peut pas descendre, il n'y a pas de descente, heureusement. Et j'ai pendant un moment, j'étais à 20 points presque sur chaque match, tu vois. Mais bon, quand le défenseur me colle vraiment et il est plus jeune et plus athlétique... Là, il y a des fois où je peux passer à côté aussi.
Ça doit être ça. Je ne suis plus tout à fait assez jeune et assez athlétique pour aller vous contrer. C'est pour ça que j'ai dégusté la dernière
surtout
fois.
Surtout que quand on joue sur les playgrounds, il y a rarement des mecs qui veulent se sacrifier pour défendre à mort sur un adversaire. Donc, j'en profite.
C'est la fin de la première partie de notre interview avec Georges Eddy. Restez branchés sur Basket USA pour la sortie de la deuxième partie dans les jours à venir. Georges Eddy nous y parlera de son parcours à Canal+ et en tant que journaliste. I'm gonna flavor it with okra, cayenne pepper to make it hot. You know life is what we make of it, so beautiful or so wild.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.